écoutez Alire FM 93.1. De l'huile sur le jeu. Une chronique par Antoine Marsay.
La bataille de Zagreb. 13 mai 1990. Tito est mort depuis 10 ans et l'unité des républiques yougoslaves ne tient plus qu'à un fil. En Croatie, où des élections se sont tenues le 6 mai, propulsant les démocrates nationalistes au pouvoir, on cherche à s'extirper tant bien que mal de la domination serbe. Le pouvoir central communiste, installé à Belgrade, est de plus en plus phagocyté par le nationaliste serbe Slobodan Milošević, voit d'un très mauvais œil les velléités indépendantistes croates. La Yougoslavie est au bord de l'implosion. Dans ce contexte extrêmement lourd, l'étoile rouge de Belgrade se déplace sur la pelouse du Dinamo Zagreb. Le match de football n'aura jamais lieu. Les esprits et les corps s'échauffent, les tribunes débordent, jusqu'à un affrontement qui sonne comme l'annonce d'une guerre inévitable. Récit d'une bataille qui fit date. Depuis plusieurs années déjà, après chaque grand succès du Dinamo Zagreb, des drapeaux croates fleurissent en tribune. Ce club, monument du football croate, et ses belliqueux supporters, les Bad Blue Boys, n'hésitent pas à provoquer le pouvoir yougoslave en affichant leur nationalisme. Aussi, au printemps 1990, après des élections qui ont porté un dirigeant nationaliste à la tête de la République de Croatie, l'heure est à l'indépendance. Et la venue de l'étoile rouge de Belgrade, emblème du football yougoslave et de la domination serbe, est donc un événement. Sur le plan footballistique, aucun intérêt. L'étoile rouge est déjà championne, il n'y a plus rien à jouer. Sur le plan politique, les supporters des deux clubs n'attendent que ça. Et les ultras de Belgrade sont venus en nombre. Leur chef, absent ce jour-là, se nomme Zeljko Raznatović. En 1990, il est en tête de la liste des personnes recherchées par Interpol et il sera plus tard inculpé par le tribunal de La Haye pour crime contre l'humanité. Le décor est posé. Dès le matin de la rencontre, des affrontements éclatent dans le centre-ville. Les Croates ont tenu à accueillir les quelques 3000 hooligans serbes à avoir fait le déplacement. Dès l'entrée des supporters dans le stade, des chants hostiles sont entonnés. On entend par exemple les Serbes reprendre en chœur « Zagreb est serbe et nous tuerons Tudman », du nom du président croate nouvellement élu. Parmi les 22 joueurs qui entrent sur la pelouse, il y a quelques figures notables, avec côté Zagreb, l'attaquant Davor Šuker, futur joueur du Real Madrid et héros de son pays lors de la Coupe du Monde 1998, et Zvonimir Boban, un jeune meneur de jeu impétueux qui soutient déjà publiquement l'indépendance de son pays. Avant même que le match ne commence, l'agitation en tribune monte d'un cran. Les supporters serbes, parqués dans l'un des virages, parviennent à accéder à la tribune supérieure et se dirigent ainsi vers les Bad Blue Boys, croates, placés dans le virage opposé. Sur le passage, ils arrachent sièges et panneaux publicitaires pour les lancer sur leurs opposants, qui ne tiennent plus en place. Les Croates tentent de déborder les forces de police qui les maintiennent violemment dans la tribune. Sous la pression écrasante des supporters, les forces de l'ordre sont contraintes de se dégager et tout le public envahit la pelouse, permettant le clash entre les deux groupes. Toutefois, l'affrontement n'est pas vraiment équilibré. Les Serbes, moins nombreux, peuvent toutefois compter sur l'appui de policiers, en grande majorité serbes, qui n'hésitent pas à tabasser les ultras de Zagreb. Alors que le stade est devenu une gigantesque arène de gladiateurs, la musique continue de sonner dans les haut-parleurs et le commentateur sur place annonce les publicités comme si de rien n'était. Parallèlement, tous les joueurs sont rentrés se mettre à l'abri au vestiaire. Tous ? Non. Un irréductible croate se tient encore sur la pelouse, au milieu du chaos. À peine visible au milieu de la marée humaine, Zvonimir Boban navigue entre les corps qui s'entrechoquent. Aussi, lorsqu'il aperçoit un policier lyncher au sol un Bad Blue Boy, il le prend à partie. Il le repousse, esquive ses coups de matraque, avant de lui asséner un violent coup de genou sauté dans la mâchoire. Le flic s'écroule sur la pelouse. Poursuivi par les autres policiers, Boban est protégé par un petit contingent d'ultra qui l'escorte jusqu'au vestiaire. Petit à petit, la pelouse se vide, laissant apparaître des supporters en sang, peinant à retrouver abri en tribune. Malgré la violence extraordinaire de cette mêlée générale, aucun mort n'est à déplorer. 138 blessés et 147 arrestations tout de même. Dans les jours qui suivent, les images de Boban font le tour du monde, propulsant le milieu offensif comme le symbole du nationalisme croate. Suspendu par la Fédération yougoslave, il est privé du Mondial 1990. Boban devient ainsi une figure à part et un porte-étendard dans cette Croatie, cherchant à fuir le communisme yougoslave et combattre l'impérialisme serbe. Légende absolue de la sélection croate, il se joindra 8 ans plus tard à Davor Šuker pour porter l'équipe nationale, dont il est le capitaine, jusqu'en demi-finale du Mondial en France. En Croatie, cette bataille du 13 mai 1990 est considérée comme la première de sa guerre avec la Serbie, qui commencera officiellement l'année suivante. Plus qu'une bagarre entre supporters rivaux, c'est la première matérialisation d'un conflit qui couve depuis plusieurs années, la dernière étincelle qui manquait pour mettre le feu aux poudres.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.